et vos questions. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une apologie de la souffrance quand vous parlez de la passion, que finalement c'est pas si important de ne pas être guéri?
Je fais une apologie du rééquilibrage, oui, c'est certain. De la souffrance, non. Mais il est très clair que ces 20-30 dernières années, on a perdu de vue, en réaction contre ce que vous dites, qui était une sorte de fixation un peu morbide, hein. Mais on a perdu de vue le sens profond pour un chrétien, de la souffrance. Prenez par exemple le fameux accident que Jean-Paul II avait eu, cette tentative d'attentat, dont il a résulté un petit volume qui s'appelait « La souffrance salvifici doloris », la souffrance salvifique, la douleur salvifique, une encyclique sur la souffrance. Prenez ce document-là par exemple, à temps et à contre-temps, il donne les différents... Je ne l'ai pas relu depuis longtemps, mais comment dire, les différents aspects de la façon chrétienne d'assumer, de vivre la souffrance. Et ça, on a totalement perdu de vue. Et alors c'est vrai qu'à partir du renouveau charismatique, les gens qui sont baignés dedans auront le réflexe premier en allant voir une personne qui souffre, de dire « veux-tu que je prie avec toi pour ta guérison ?» Et puis... beaucoup de démarches qui ont été faites ainsi se sont quelquefois heurtées précisément à des échecs, ou à des décès même, non pas dû à ça du tout, mais parce que le Seigneur ne répondait pas. Et il faudrait aussi qu'on trouve aussi parallèlement un deuxième langage qui serait le rééquilibrage et la façon de proposer le sens chrétien de la souffrance aussi. Ça vous semble exorbitant comme... Je vais aller mettre ça un peu plus fort, vas-y.
Je vais répondre aussi à cette question en disant qu'il y a un engouement aujourd'hui pour toutes ces sessions de guérison. Il y a même parfois des gens qui traversent l'Atlantique pour aller se faire guérir au Canada ou que sais-je. Je voudrais simplement remettre les choses peut-être à leur juste valeur. Il y a dans notre département, dans notre diocèse du Mans, deux diacres qui viennent d'ailleurs. Il y en a un qui est d'origine vietnamienne et qui a vécu les Bot Pichol. Il a donné sa vie à un moment pour suivre le Christ, alors qu'il aurait pu évoluer dans le milieu communiste en étant ayant un épanouissement humain extrêmement fort. Et au moment même où on lui proposait d'avoir une profession tout à fait confortable avec les communistes, il a préféré risquer sa vie pour le Christ. Il est devenu Bot Pichol et il est maintenant le diacre du diocèse du Mans. Pour dire qu'il y a un moment où on n'a pas à rechercher forcément santé, guérison et bien-être, mais il y a un choix profond à faire. Voilà. Il y a un autre diacre qui est issu du Rwanda. Sa famille, une partie de sa famille a été massacrée. Et il a dû faire je ne sais pas combien de centaines de kilomètres à pied à travers la forêt avec juste la Bible. Et c'est important de relativiser aujourd'hui dans notre monde occidental nos quêtes de guérison au regard de personnes qui ont traversé ou qui ont été traversées par les drames de notre XXe siècle. Et ça relativise un peu nos volontés de soigner nos mondes.
Des enfants de Marie, et ce mot-là, je le vois, et je ne veux pas le dire, ce qui m'en
J'ai réagi aussi intérieurement parce que je me dis, mais la rédemption du Christ, il n'a pas besoin de que je lui offre des souffrances.
Je pense que si j'emploie des termes théologiques, je dirais que l'économie du salut n'est pas close sur elle-même. L'acte rédempteur du Christ n'est pas close sur lui-même. Certes, il a tout accompli, mais de telle sorte qu'il demeure au centre de cette rédemption une place pour chacun de nous. On pourrait dire aussi que Jésus a accompli toute l'évangélisation. Mais c'est pas vrai. Il a laissé la place pour que l'évangélisation se déploie par l'intermédiaire de l'Église au long des siècles, à travers le temps. Et donc, il laisse toujours, la place pour que nous participions, pour notre participation, pour la subsidiarité, pour que chacun ait sa place et dans son sillage et à sa suite, puisse amener sa petite pierre. Alors c'est vrai pour toutes sortes d'aspects de réussite dans la vie, et c'est vrai pour toutes sortes d'aspects de souffrance et d'échec aussi. Le Christ est dans la personne malade qui souffre, il est dans la personne affamée qui est en train de mourir, il est présent partout, et il a assumé et il continue à assumer tout cela. On aurait pu penser qu'il a appelé Pierre et puis c'est tout, il a appelé Pierre et les successeurs de Pierre, et ça se continue. Il faut qu'on ait cette dimension du déploiement de l'œuvre rédemptrice du Christ. Donc en ce qui concerne la passion, vous savez très bien qu'à certains moments, le Christ, devant l'amour du cœur de certaines personnes, leur propose de vivre intimement lié à sa passion. C'est Marthe Robin et ses stigmates, c'est Padre Pio, c'est d'autres encore. Bon, ça nous semble effectivement exorbitant, bizarre, ou tout ce que vous voulez, mais c'est véritablement un service d'église, j'allais dire, que le Christ demande à travers ces personnes. Donc, ce qui manque aux souffrances du Christ, ma petite part, je peux l'apporter chaque jour à travers... Alors, ça ne veut pas dire non plus, je ne vais pas demander au Seigneur de ne pas me guérir. Je vais aussi, parce qu'on n'est pas masochiste, justement. Il faut éliminer la dimension de morbidité, de masochisme. En Christ, tout est différent. En Christ, tout est... La possibilité d'assumer les choses est fort différente. Or, on a effectivement, dans une certaine catéchèse, il faut quand même être honnête, on a voulu tellement insister sur le fait que Dieu nous veut heureux pour contrebalancer une époque où être chrétien, c'était pas drôle, dans la formation qu'on avait reçue. On a tellement été dans l'autre sens que on a totalement gommé ces aspects, totalement, si vous voulez. Donc c'est aussi déséquilibré dans l'autre sens. Alors la recherche de guérison intérieure, c'est encore autre chose, mais ça nous vient effectivement par certains aspects du courant du Nouvel Âge, ça c'est sûr. Mais ça, on ne s'en est pas aperçu, si vous voulez. C'est avec 30-40 ans de distance maintenant qu'on peut mieux analyser certains aspects, sûrement. Toujours dans la même mouvance, la recherche de la guérison prioritairement. Enfin, je ne sais pas, tu peux peut-être dire deux mots sur Simone Paco, je ne sais pas, mais je les ai, ces ouvrages, mais je ne les ai pas lus. Je n'ai pas eu le temps de les lire encore. Mais
Simone Paco, effectivement, elle a repris toute la notion de l'inconscient, de ce qui habite, hein, l'évangélisation des profondeurs. De quelle profondeur s'agit-il ? Et s'il s'agit des profondeurs de l'inconscient, comme le disait le Père Dominique, nous avons toujours à nous convertir, et dans notre liberté, dans notre volonté de nous convertir. Et l'inconscient demeure inconscient. Donc nous n'y avons pas accès, forcément. Comment évangéliser quelque chose auquel nous n'avons pas accès ? C'est une véritable question. Si nous avons à convertir quelque chose, c'est toujours dans l'exercice des vertus et dans notre volonté de nous convertir dans ce que nous savons et pas dans ce que nous ne savons pas. Alors, comment aller chercher les profondeurs de l'inconscient qui sous-tendraient nos actions, alors que traditionnellement l'Église nous demande de nous convertir dans l'ici et le maintenant et dans l'agir concret, pas de convertir notre inconscient.
Et nous, on ne peut pas toujours agir. Il peut y avoir des obstacles aussi.
Oui, mais là, ça procède du fait que nos actions seraient le fruit de nos inconscients. Vous voyez, comme si les choix que nous faisons et tout un mode psychanalytique a pu nous conduire sur le fait que nos actions, finalement, étaient déterminées par notre inconscient. Mais c'est pas ce que nous dit la tradition chrétienne. La tradition chrétienne nous dit que nos actions sont libres, et sont d'autant plus libres qu'on exerce les vertus et qu'on reçoit la grâce.
C'est la pénétration de la psychanalyse dans la perspective chrétienne, quoi.
C'est vrai que cet engouement pour la guérison, quand on sent quelqu'un mal, eh bien, on veut absolument trouver les choses. Et moi, je sais que personnellement, j'ai eu vraiment une overdose des gens qui m'entouraient en me disant « mais il faut faire quelque chose de guérison ». Et Bertrand, tu te rappelles, ça fait déjà mieux parce que c'était l'énéagramme et je t'avais posé la question, hein, et tu m'avais répondu une question très juste: comment veux-tu qu'on fasse l'énéagramme de Marthe Robin, hein? Et alors maintenant, je voudrais dire que à cette époque, j'avais été très loin, enfin, nous avons été, mais depuis, ça dépend par qui est fait la chose aussi. Et donc, c'était fait par quelqu'un qui était très documenté sur le sophisme, qui avait la foi, qui était très catholique. Mais je ne sais pas comment ça se fait maintenant, mais l'énéagramme est devenu très à la mode, et ça se fait par exemple au centre où Marie est retournée, elle a fait 2-3 sessions, mais je ne veux pas dire, mais quand vous nous dites toutes les dérives, on est quand même un peu inquiet, et je trouve que c'est vraiment important pour regarder un petit peu comment ça se passe.
Je veux peut-être redire ce que c'est que l'énéagramme, parce que je ne suis pas sûr qu'on soit tous très, très...
C'était pour la fête 30 ans que nous avons
fait. Ah, mon effet.
Oui. Au centre au monde, déjà, c'est dans le monde nord.
C'est aujourd'hui, hein, ça se fait au centre au monde, c'est un centre de
jésuites. Oui, oui.
Enfin, mais
C'est précisément un peu toute l'ambiguïté, hein, qu'il peut y avoir. Et sur le site PNCDS 72, j'ai écrit un article justement sur l'énéagramme et l'ambiguïté qu'il peut y avoir. Ne serait-ce que Pascal Hyde, hein, qui a écrit Les 9 portes de l'âme, mais également Éphraïm. Et dans les 9 portes de l'âme de Pascal Hyde, il est question aussi de l'énéagramme de la petite Thérèse, de l'enfant Jésus et de ses parents. Donc, si vous voulez créer cette typologie en 9 points, hein, en 9 types d'une certaine manière, qui a irrémédiablement, chaque type a son aspect compulsif. Donc chaque type a son aspect négatif et son aspect positif. Donc, puis il y a les ailes aussi, donc les types sont entourés de deux côtés. Enfin bon, c'est d'une grande complexité conceptuelle. Mais ça réduit le champ des types humains à 9. Déjà, si vous voulez, ça réduit la possibilité de la réalité d'une personne. Et rentrer dans le fait que chaque qualité aurait sa phase d'ombre et de défaut, nous fait rentrer dans un système binaire dont nous avons parlé la dernière fois, qui nous ressemble à la psychologie jungienne. La psychologie jungienne s'inspire de tout un courant théosophique et gnostique. Il ne faut pas oublier que l'énéagramme a été fondé au départ par Gurdjieff. Gurdjieff est un grand hermétiste, une espèce de mage qui a beaucoup séduit toute une intelligentsia française, à savoir Louis Powells, etc. C'est tombé un petit peu en désuétude en France, mais ça a été repris par des Américains, Icazo, Narendro, enfin voilà. Et aujourd'hui, l'énéagramme est un outil extrêmement performant dans tout le monde du New Age. Il est venu en France, ce serait un peu long d'expliquer, mais nos milieux cathos sont particulièrement imprégnés par ces questions d'énéagramme. Moi, la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que c'est le lieu, dans des centres spirituels, de proposer ces méthodes-là ? Est-ce qu'on proposerait, dans un centre spirituel, telle méthode de psychanalyse plus qu'une autre ? Non. Je crois qu'il faut respecter les plans. Et je crois, pour ma part, qu'il y a danger quand on propose l'énéagramme dans des retraites ignatiennes, parce qu'on mélange des plans qui sont ceux d'essayer de se comprendre soi-même et ceux d'être en relation avec la parole de Dieu. Dans une retraite ignatienne, il n'est pas question d'aller chercher dans son nombril, il est question de voir comment la parole de Dieu retentit dans notre cœur avec les émotions que ça peut susciter, des désolations, des consolations ou des autres choses neutres. Mais c'est toujours, nous sommes toujours centrés sur la parole de Dieu. Nous sommes centrés sur lever notre regard et ne pas passer notre temps à regarder nos réactions et notre propre nombril.